France Inter. Le masque et la plume. Un nouvel épisode du Masque, exceptionnellement en studio, à la radio, où nous ne pouvons accueillir qu'un petit nombre de spectateurs, avant de retrouver la scène et le public du Théâtre de l'Alliance Française, dès la semaine prochaine. L'émission du jour est dédiée à l'actualité littéraire, avec le premier roman d'une autrice britannique, le dernier volume de la série d'Armistead Maupin, ou encore le journal de bord de mer d'un écrivain. Pour en débattre, les présents sont Raphaël Léris du journal Le Monde, Laurent Chalumeau, Patricia Martin de France Inter et Hubert Artus de Lire Magazine et du Parisien Week-end. Dans le détail, le programme est le suivant. Polaroid du frère de Grégoire Delacour, L'invention de Tristan d'Adrien Bosque, Mona et son manoir d'Armistead Maupin, Je suis fan de China Patel et Roman de plage d'Arnaud Catherine. Bonjour, bienvenue, c'est Le Masque et ses plumes. Merci d'avoir attiré mon attention sur la vie continuée de Nelly Arcan de Joanne Rigoulot, m'écrit Lise sur Instagram. Je ne connaissais Nelly Arcan que de nom et ce roman de Joanne Rigoulot m'a éclairé sur le contexte de son apparition. Mais le débat qui vous a fait réagir concerne le nouveau livre de Victoria Mas intitulé L'orpheline du temple, un roman épistolaire situé en 1795. Pour rappel, les lettres qui composent le livre sont signées du geôlier de la fille aînée de Louis XVI. Les convictions républicaines de cet homme sont ébranlées par son amour pour la princesse, elle-même détenue dans des conditions atroces. Fin du rappel. À votre micro, ce roman a été qualifié de contre-révolutionnaire et les bras m'en tombent, m'écrit David sur Instagram. Jean de Miscaux, de Strasbourg, renchérit en demandant « A-t-on, en 2025, en France, le droit de s'émouvoir et se scandaliser du sort réservé aux deux enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette sans passer pour un abominable réac ?» Laurent Dominici, quant à lui, rencontre d'une scène chez sa libraire. Lorsqu'elle lui conseille l'orpheline du temple, il raconte avoir blémi et déclaré « Mais madame la libraire, les critiques du masque et la plume n'ont pas du tout aimé. Seule madame Patricia l'a courageusement défendue. » « Eh bien, faites confiance à Madame Patricia », me répond Madame la libraire. « Son jugement est très souvent éclairé et en plus, elle apprécie les écrivains beaux mecs. » Cet auditeur écrit ensuite avoir embarqué, je cite, « le brûlot anti-républicain en le cachant dans son sac ». Il l'a lu d'une traite et depuis, conclut-il, « je me réveille en sursaut la nuit ». Serais-je devenu un lecteur de droite ? Droite, gauche, on s'en fout, s'exclame Sophie, 22 ans, sur Instagram. Cela dit, je n'en peux plus des romans tels que Stanislas, de Simon Liberati, écrit Sophie. Stanislas raconte les petits malheurs d'un enfant grandi dans le 5e arrondissement de Paris. Ça m'a valu une engueulade avec mon père. Bon, il m'a dit que j'étais trop à gauche. On commence avec l'invention de Tristan signé Adrien Bosque. Le Tristan du titre renvoie à Tristan et Golf, un auteur américain devenu culte avec la publication de son premier roman, Le Seigneur des Porcheries, paru en 1998. Ce livre d'Adrien Bosque n'est pas une exégèse universitaire, mais une enquête menée par un journaliste qui mue en détective littéraire. Il se prénomme Zachary. À travers lui, Adrien Bosque retrace l'œuvre et la vie de Tristan et Golf à Paris et en Pennsylvanie, là où il est né, là où il est mort, là où il situe son premier roman. Qui était Egolf derrière sa légende? Et la légende, je vous la résume comme ceci. Il était une fois un Américain exilé à Paris. En jouant de la guitare sur le Pont des Arts, il rencontre Marie Modiano, fille d'un écrivain célèbre, alors qu'Egolf n'essuie que des refus aux États-Unis. Patrick Modiano porte son manuscrit chez Gallimard. Résultat, succès mondial. Tristan Egolf s'est suicidé en 2005, à l'âge de 33 ans, et l'une des questions du livre est la suivante. Est-ce qu'un livre peut tuer? Est-ce l'arme du crime, en quelque sorte? Laurent.
Alors, c'est un très bon sujet, et il est magistralement traité. C'est vraiment très très bien mené, même ce qui peut d'abord faire l'effet d'être un petit plaisir que l'auteur se fait. Son double, qui est journaliste au New Yorker, peut-être que l'auteur a toujours, depuis son plus jeune âge, rêvé d'être lui-même journaliste au New Yorker. Même ça se trouve très habilement justifié et mis à profit à la fin. Donc, comme tu le disais, c'est une enquête, c'est l'anatomie d'un culte et aussi d'une anomalie littéraire. Et ça éclaire comment on fabrique un phénomène.
Comment on fabrique une légende, en fait ?
Voilà, oui, une légende, un culte. Et alors, ça éclaire aussi, au passage, une vision de la littérature typiquement française, une vision doloriste, où l'écriture
très romantique.
Est envisagée comme un sacrifice, la lecture comme un tourment. En soubassement, il y a l'assimilation de la démence à du génie, et il y a aussi, in fine, dans cette conception de la littérature, un complexe de supériorité français vis-à-vis des Américains, qui sont de grands enfants, infoutus de détecter eux-mêmes les génies qu'ils produisent parfois accidentellement. Alors, il y a des fois où ça a été vrai dans l'histoire littéraire ou musicale. Le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a une piste que le livre esquisse aussi, qui est assez jouissive, même s'il ne l'exploite pas complètement, c'est celle du manuscrit maudit, qui porte malheur à toutes celles et tous ceux qui s'en approchent de trop près. Mais là, on bascule dans Lovecraft. L'auteur sait s'arrêter à temps. Il faut préciser qu'on peut prendre du plaisir, il y a un grand plaisir à ce livre, même si on n'a pas réussi à finir l'abominable Seigneur des Porcheries. J'aime à dire...
On peut lire L'Invention de Tristan sans avoir lu Le Seigneur des Porcheries.
Aussi. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, c'est-à-dire que si on attaque l'Invention de Tristan sans avoir lu Le Seigneur, il y a peu de chances qu'on le commence ensuite, enfin, de mon point de vue. Mais j'aime à dire, d'habitude, que ce sont ceux qui aiment qui ont raison. Eh ben, pas là. Ceux qui ont refusé de publier aux États-Unis ont vraiment bien fait. Comme quoi, un faux bon livre peut en inspirer un autre vraiment réussi, lui. Et donc, bravo.
Alors, j'ai vu Patricia tantôt faire le signe de croix, pousser un coup de soulagement et là, lever les yeux au ciel, finalement.
Je ne sais plus quoi te dire. Sinon, je pense que je vais te taper dessus maintenant que tu as porté de main, mon cher Laurent, que j'adore. Non, mais ne dis pas que Le Seigneur des Porcheries est une... excuse-moi, mais une M point de suspension... pour tous les lecteurs. Enfin, je veux dire, ça a eu du succès, c'est quand même un livre qui a eu un certain retentissement. Alors, ce qui s'est passé tout à l'heure, tu parlais de Nelly Arcand, et moi je trouve qu'il y a un parallèle à faire sur la sortie d'un bouquin. Tout à coup, le phénomène, c'est évidemment pas du tout les mêmes causes, mais le phénomène fait que, bah, peut-être qu'il y a une certaine méprise quand l'écrivain est interviewé, et ça
mais
se passe d'ailleurs.
Le livre de Joanne Rigoulot sur Nelly Arcand est aussi une enquête littéraire.
Exactement, et il y a un passage ici où c'est quelqu'un qui a été très aimé ici à France Inter, dont le nom n'est pas donné, mais qui reçoit ici même à Radio France, qui a été producteur et directeur, donc on voit très bien qui c'est, et qui parlait très fluently l'anglais, et qui l'interview à un moment donné, et qui, apparemment, selon en tout cas Adrien Bosque, se plante complètement. C'est un livre, pour moi, qui est absolument flamboyant, je parle de celui d'Adrien Bosque, de bout en bout, parce qu'au fond, dans cette histoire, tout est fou, tout est démesuré, tout est absolument irréel. Hegel, c'est un ogre qui a bouffé la vie pour la recracher en littérature, qui est un homme qui a été effrayé aussi bien par le bonheur que par les habits. Et puis, il y a quand même eu des hasards. Évidemment, sa vie a fini tragiquement, comme celle de son père, d'ailleurs, qui est mort d'une overdose. Pourquoi s'est-il suicidé, on ne le saura jamais. Mais il a quand même eu des coups de pouce extraordinaires. Dans l'histoire avec les Modiano, il rencontre Marie Modiano sur un pont tout à fait par hasard. Tout à coup, il y a Modiano qui va fermer la fenêtre dans la chambre de sa fille, qui tombe sur ce manuscrit dont il n'a pas lu une ligne. De toute façon, il ne parle pas suffisamment.
Il parle mal anglais.
Il parle mal anglais, donc c'est sa femme qui lui a... J'en ai des frissons en parlant. Parce que cette scène, on la voit, cette espèce de grand échalas, d'ailleurs, Hegel était un grand échalas lui aussi. Il va fermer la fenêtre de la chambre de sa fille et puis il voit ce truc posé sur une table, ce manuscrit, et il se dit mais ça sent le parfum est celui d'un chef-d'œuvre. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Il y a eu des miracles comme ça.
Modiano comparant lui-même Tristan et Golf à Faulkner, Hemingway...
Ah oui, il avait pris du crack ce jour-là.
Non, mais en plus, il faut noter aussi la connaissance qu'a Bosque de la littérature américaine.
Spécialement de non-fiction, qui est le sujet
exactement
central là.
Tu as tout à fait raison.
Ce livre, c'est les coulisses de comment est-ce qu'on est journaliste et qu'on veut écrire une non-fiction. Parce que le narrateur est un journaliste qui est en formation.
D'ailleurs, ce journaliste envoie des mails à son supérieur, à celui qui était son supérieur au New Yorker. Et ces mails permettent d'entrer dans les coulisses de l'écriture de cette enquête.
Mais sans être dans l'entre-soi. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment tourné vers le lecteur. Oh bah si, quand même, attends, il est...
C'est là que je trouve la limite.
Ah non, moi je trouve que même si on ne connaît pas le milieu de l'édition, des traducteurs, des avaloirs... Que sais-je, des contrats, moi je trouve ça intéressant.
Hubert ?
Alors moi, subjectivement, l'amoureux, le possédé de littérature que je suis, a beaucoup aimé ce livre d'Adrien Bosque, parce qu'il avait beaucoup aimé en 1998, quand il est sorti en France, Le Seigneur des Porcheries. Moi, alors là, pour le coup, Laurent, c'est toi qui as pris du crack hein, sur ce coup-là, parce que, excuse-moi, mais c'est absolument génial. C'est ceux qui aiment la contre-culture américaine, ceux qui aiment l'Amérique, le noir rural, cas, comme on dit maintenant. Je comprends pas, justement, ça me scie que tu n'aies pas aimé ce livre, Laurent. Mais moi, j'étais possédé par ce livre, et c'est pour ça que ce livre m'a, de ce point de vue-là, envoûté, hein, d'Adrien Bosque. Mais objectivement, le journaliste que je suis voit quand même un certain nombre de réserves. Parce que traiter le livre des Seigneurs des Porcheries et faire une enquête, un roman-enquête, parce que c'est ça hein, qu'il fait là-dessus, je trouve que ça manque un peu de lien avec quelque chose avec d'aujourd'hui. Il aurait fallu une strate supplémentaire sur le narrative non-fiction aujourd'hui. Or, Adrien Bosque en publie beaucoup, avant aux éditions du Sous-Sol et maintenant aux éditions Julliard. Je trouve qu'Adrien Bosque, il respecte bien les codes du genre, il respecte les codes comme son personnage les respecte, mais il y a une différence entre les deux, c'est que son personnage, il fait un reportage. Adrien Bosque, il fait un livre. C'est plus long. Et à mon avis, ce livre d'Adrien Bosque, il n'a pas la force d'impact que devrait avoir un livre, parce que je trouve qu'il manque une strate qui nous renseignerait sur Tristan et Goff aujourd'hui, pourquoi il faut le lire. J'ai 51 ans, moi je l'ai lu, mais si j'ai 30 ans, je ne suis pas sûr.
Eh bien, dis pourquoi il faut le lire.
Non, mais là, on parle d'Adrien Bosque.
Non,
on
mais
on ne va pas mettre du millefeuille dans le millefeuille dans le millefeuille.
Mais
etc.,
si, mais, on aime les millefeuilles.
Mais je trouve que ce livre-là, d'Adrien Bosque, que moi j'ai adoré, je ne suis pas sûr que si on n'est pas tombé dans Le Seigneur des Porcheries dans les années 98, on peut le lire. Mais ceci dit, encore une fois, subjectivement, j'ai beaucoup aimé ce livre d'Adrien Bosque.
Pour, pour ma part, je reconnais ne pas avoir lu Le Seigneur des Porcheries encore de Tristan et Goff, et j'ai tout à fait pu entrer dans le roman d'Adrien Bosque. Raphaël ?
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont il traite une époque, les années 90, et comment c'était dans l'édition à ce moment-là, et c'est ce rapport à cette époque-là, presque 30 ans plus tard, que je trouve être l'une des choses les plus réussies de ce livre. Si j'ai des réserves, elles sont plutôt sur l'autre partie qui est sur la vie, mais sur la manière dont est racontée la conjuration des admirateurs pour fabriquer ce livre et sa légende, je la trouve passionnante. Et je suis pas sûre qu'Adrien Bosque avait besoin de poser au journaliste du New York, de s'inventer un journaliste du New Yorker pour raconter ça. Parce que je crois que ce qu'il dit, c'est que, en tant qu'éditeur versé dans le milieu, il pouvait pas feindre la candeur en parlant de tous ces gens, des traducteurs, des personnes qui acquièrent les droits, des éditeurs, de comment tout ça s'est passé. Je trouve que c'est un faux problème. Et moi, ça m'a fait un écran, cette espèce d'invention qui, pour moi, ne marchait pas et qui m'a rendu la deuxième partie sur la vie de Tristan moins intéressante. Et qui, en plus, on sait qu'on n'arrivera pas à la conclusion de l'élucidation du suicide, on l'aura pas. L'élucidation du génie, on l'aura pas. Très élégamment, il donne le dernier mot à Patrick Modiano, que l'entreprise n'a pas réjoui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il donne la parole à son discours du Nobel, où il explique à quel point c'est pas la vie qui explique l'œuvre. Et je suis pas sûre qu'il ne se tire pas une balle dans le pied, mais j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment.
Tu veux dire que Patrick Modiano n'a pas été réjoui par de mener une enquête sur... d'écrire un livre enquête sur Tristan et Goff.
Sur Tristan et Goff et sur l'histoire avec sa fille. Enfin, j'ai cru comprendre que ça ne le réjouissait pas et qu'il était question qu'il soit chez Gallimard et qu'il n'a pas été. Voilà, donc je trouve ça très élégant de lui donner le dernier mot, mais c'est un dernier mot qui dit à quoi bon.
L'invention de Tristan d'Adrien Bosque est publiée chez Stock. Le livre suivant est le premier roman d'une jeune autrice britannique qui s'appelle Sheena Patel. Il s'intitule « Je suis fan ». Il a paru en Angleterre il y a 3 ans et vient d'être publié chez Gallimard dans une traduction de Marie Dariussec. « Je suis fan » est un flot de pulsions, réflexions et constats d'une jeune femme qui commence par ceci « Je traque sur Internet » une femme qui couche avec le même homme que moi. À partir de là, la narratrice déploie une double obsession, d'une part pour, je cite, « l'homme avec qui elle voudrait être », dont on ne connaîtra jamais le prénom, d'autre part pour, je cite toujours, « la femme qui l'obsède ». Cette femme qui l'obsède est influenceuse américaine, fortunée, qui met en scène sur Instagram sa fusion avec la nature, la justesse de ses choix de bougies en cire d'abeille, ou sa désolation face au devenir des États-Unis trumpistes. La spirale de cette double obsession est scandée par des réflexions parfois drôles, et à coup sûr pleines de rage, sur la domination de classe, la domination ethnique, la narratrice appartenant à la deuxième génération d'immigrés indiens. Je suis fan, et donc un livre de colère sur l'écart entre réalité et vie rêvée, désir individuel et collectif, égard et colère sans cesse attisés par les réseaux sociaux et Instagram en particulier. Est-ce que tu es sur Instagram, toi, Patricia ?
Non, et je ne veux pas.
Mais alors, est-ce que tu as aimé le livre? Parce que c'est quand même très lié aux réseaux sociaux.
C'est une histoire absolument lancinante qui, je dois dire, m'a d'abord agacée. Parce que, effectivement, ces répétitions jusqu'à la nausée, l'homme avec qui je veux être, à la troisième fois, on commence à dire bon, à la septième, on n'en peut plus. C'est un côté étouffant, on a l'impression d'être pris dans une traque personnelle.
C'est un huis clos.
Un huis clos, des obsessions, pour ne pas dire la folie, effectivement, d'une femme. Et ce qu'elle nomme une automutilation collective de nana. Et puis tout est lié, l'amour, la haine, la destruction. Il y a d'ailleurs des descriptions absolument cliniques de sexe qui participent à cela. Et puis en fait, mais j'ai adoré ce bouquin. C'est-à-dire que c'est bourré de clins d'œil, d'autodérision, quand elle écrit « La taille unique, c'est ma taille. Ma race occulte nettement mon individualité. » C'est une critique en règle du monde libéral. Il y a une responsabilité collective, en fait, parce que c'est pas
une critique aussi de ce qu'on appelle la bonne conscience.
La bonne conscience, absolument. On y a tous notre part. C'est pas du tout l'accusation d'un bourreau par sa victime. Et c'est un miroir grossissant qu'elle nous tend, mais d'une société puissamment occidentale. Et elle nous fait prendre conscience, en tout cas, ça a été mon cas, de ce que ça veut dire que d'être blanc. Et je trouve que ça va assez loin. Et on se prend une bonne droite dans la figure. C'est un livre salutaire.
Raphaël ?
Alors moi, je suis sur Instagram, et sur Instagram, j'ai régulièrement, si j'y passe trop de temps, une sensation à la fois de fascination et d'écœurement, de lassitude, que m'a donné la lecture de ce texte. Donc je pense que ça, c'est réussi, je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture de ce livre où elle voulait restituer ça, d'exaspération...
De notre consommation des réseaux, voilà. Comment on traduit ça en livre, en fait.
Voilà, comment on traduit ça en livre. Mais bon, ça m'a rendu la lecture... voilà, à la fois, je l'ai dévorée, en même temps, vraiment, je m'écœurais moi-même, elle m'écœurait, le personnage m'écœurait.
Oui, parce que parfois, elle est vraiment détestable.
Et il y a quand même un côté victime de ce type où...
Bah non, justement, elle n'est pas victime.
Non, alors, elle est consciente, elle dit « si c'était quelqu'un d'autre, je lui dirais par toi mais... ». Bon, bah alors.
Mais, cocotte.
Cocotte, voilà, on a vraiment envie de dire cocotte. Néanmoins, je ne suis pas sûre de payer tout de suite ma cotisation au fan club de Sheena Patel, même si je trouve qu'elle est drôle, elle est très drôle, notamment dans les titres,
ouais. des chapitres.
Que je trouve attrape des choses très fortement. Je trouve que si René Girard revenait de chez les morts, il découvrirait comme ça le désir mimétique, le « je désire ce que désire l'autre », et à la fin, ça fabrique du ressentiment en folie. Bon, voilà, c'est vraiment... décrit très cliniquement. Après, alors moi, la partie politique, je trouve qu'elle est assénée, comme si elle voulait rattraper la part midi net paumée, perdue, et que la partie sur c'est ça le type de blanc et c'est ça la femme de blanche, et qui est politiquement intéressante, radicale, tout ça. La radicalité du ton, je trouve, tranche tellement avec le reste. Il y a un côté catéchisme politique qui me semble pas fonctionner avec le reste du livre, qui est justement beaucoup plus aux prises avec les ambivalences, les dingueries, les névroses.
Toi aussi, t'es sur Instagram, Laurent ?
Oui, trop, comme quiconque.
C'est le principe.
Comme beaucoup de monde.
C'est le principe. Alors, moi, je trouve que c'est un texte alors un peu chiant par moments, mais il faut se forcer, ça dure pas, et on est récompensé, ai-je trouvé, parce que quand même, il se passe des trucs et il se dit des choses. Alors, il y a effectivement tout le volet psychologique, psychologisant, l'obsession, la passion, les attentes déraisonnables et asymétriques, la médiocrité masculine, etc. Mais ça, à la limite, ça se faufile quelque part entre les lettres de la religieuse portugaise et Se perdre d'Annie Ernaux, donc il y a moyen de circuler. On l'a déjà un peu lu ailleurs, mais je trouve que là où c'est vraiment pertinent, c'est la description de l'étiquette en vigueur sur les réseaux sociaux en général et Instagram en particulier, là qui sont vraiment décortiqués, mais avec une cruauté chirurgicale, mais d'un chirurgien qui procéderait par vivisection. Il y a la dénonciation du bon goût et de l'architecture d'intérieur comme piège à con et outil de pression. Et ça, c'est quand même assez jouissif. Et enfin... ça m'éclaire, j'y avais pas pensé. Effectivement, peut-être que c'est une allocation d'énergie, un rééquilibrage conscient-inconscient, mais en tout cas, on constate qu'il y a un décortiquage du privilège blanc et de tout ce qui se faufile comme racisme inversé dans les simagrées. Alors là, attention, guillemets à chaque mot, tout ce qui se faufile donc dans les simagrées des blancs éclairés, guillemets, qui speak d'être plus décoloniaux, guillemets, que les racisés. Là, pour ça, c'est formidable. Et enfin, il faut dire un mot de la traduction de Darieux Seck, qui transforme la VF en livre, en fait, à deux autrices, parce que la trad est tellement brillante, astucieuse, inspirée, que dans sa fidélité même, elle constitue un autre tour de force littéraire. Enfin, je ne sais pas laquelle est la plus talentueuse des deux. Voilà.
Hubert ?
Alors moi je dirais, je rejoins tout ce qui a été dit parce que mon enthousiasme est au moins équivalent, je dirais que tout est too much, mais paradoxalement tout est équilibré, la radicalité, le cynisme et justement le ton auto-fictionnel.
Donc t'es en désaccord avec Raphaël ?
Oui mais enfin t'étais quand même enthousiaste au début, c'est une partie,
c'est une des deux phases
de ta phase politique qui t'a gêné. Ouais. Moi ce qui m'a, et une question de fond et de forme aussi, parce que le fond, que ce soit dans la façon dont elle rigole, de la façon dont elle se victimise elle-même en se laissant avoir aussi par ce mec à femme, l'homme avec qui je veux être, par la façon dont elle verbalise, la façon dont elle espionne comme une attaque de drone, pour la paraphraser à un moment, elle dit ça, je l'espionne comme une attaque de drone, c'est ce qu'elle fait envers la femme qui m'obscène, hein, qu'elle appelle l'épouse de l'homme avec qui elle veut être.
J'espère que vous suivez.
D'elle-même. Mais ce qui m'a emporté aussi, c'est que ces chapitres sont extrêmement courts et ils m'ont fait penser, y compris dans leur titre, comme tu le disais Raphaël, et y compris dans leur concision, à des posts Instagram. Il y a beaucoup d'autrices et d'auteurs qui, à commencer par Mathieu, par exemple, le prix Goncourt 2018.
Laurent Chalumeau aussi.
Ou Laurent Chalumeau, qui font des espèces de mini-stories, pas en story sur Instagram justement, mais sur leurs posts. Et ici, il y a des chapitres qui font peut-être 10 lignes, qui font ça. Et ces chapitres ne sont pas les chapitres sur elle et sa dépendance à l'homme avec qui je veux être, mais les chapitres justement sur ce qui est le truc hyper réussi, parce que c'est là que c'est hyper moderne, parce qu'elle touche son public générationnel, c'est l'intersectionnalité, les luttes intersectionnelles. Elle ne parle pas que de racisés, elle ne parle pas que de femmes victimes des hommes, elle ne parle pas que de transphobie ou d'homophobie, elle parle de tout ça. Ça s'appelle l'intersectionnalité. Qui, aujourd'hui, est le plus à même de lire, de manifester, de se mobiliser sur les réseaux sociaux pour ensuite aller faire une manif? C'est le public des 20-25 ans aujourd'hui. Elle a 30 ans, la narratrice, hein, et à mon avis, l'autrice, si elle les a, la guerre plus. Elle reproduit ça sur la forme, et c'est ça qui m'a emporté aussi, moi.
Je suis fan de Sheena Patel et publié chez Gallimard dans une traduction de Marie Darieusec. On va maintenant parler de Polaroid du frère de Grégoire Delacour, qui s'est fait connaître il y a une quinzaine d'années avec L'écrivain de la famille, puis avec La liste de mes envies, adapté au théâtre et au cinéma. Alors, le mot Polaroid du titre de ce nouveau roman renvoie à la trame du texte, faite de 188 instantanés, 188 fragments, avec lesquels le narrateur compose le portrait d'une famille, et surtout, il recompose la vie d'un frère mort dans l'alcool et la solitude. À travers des différentes pièces de ces fragments, livrées dans une chronologie désordonnée, se dessine une expérience commune entre le narrateur et son frère. L'un puis l'autre ont subi les abus sexuels de leur père, surnommé le Corbeau. Quand Grégoire, le narrateur donc, qui porte le même prénom que l'auteur, apprend la mort de son frère, il ne l'avait pas vu depuis 30 ans, aucun lien ne s'est jamais noué entre eux, c'est donc l'histoire d'une fraternité inachevée. Raphaël ?
J'ai éprouvé une mauvaise conscience taraudante tout au long du livre, parce que lire cette histoire d'enfants incestés qui ne se sont jamais trouvés, l'un s'est détruit dans l'alcool, tout ça en levant les yeux au ciel à chaque phrase, parce qu'on les trouve épouvantablement poseuses, componctueuses, mal écrites. Enfin, si on les lit à haute voix, on a l'impression d'avoir des cailloux dans la bouche, tellement les phrases ne s'enchaînent pas, il n'y a aucune espèce de fluidité. Donc vraiment, j'ai éprouvé une terrible mauvaise conscience, il ne faut jamais rater une occasion de mauvaise conscience, c'est un de mes mantras. Parce que tu dis qu'il s'appelle Grégoire, mais non, il s'appelle G. Et son frère s'appelle R. Et puis à un moment donné, on apprend qu'il s'appelle Renaud et puis qu'il y a Grégoire.
Mais
alors,
on
pour quelle raison,
suite,
on ne sait
on
pas.
On l'apprend vers la fin.
Une espèce de je sais pas, de Duras très chelou, de pulsion durassienne très chelou, on ne sait pas à quoi ça correspond. J'ai pas grand-chose d'aimable à en dire, donc je vais laisser mes camarades.
Et pour ce qui te concerne, Laurent ?
Alors, moi j'ai plein de trucs très aimables à en dire. C'est invraisemblablement complaisant, impudique, et in fine, même pas prétentieux, prétentiaire. Techniquement, c'est d'une
l'amabilité selon Laurent Chalumeau.
En fait, c'est de l'affect qu'on n'a pas eu la politesse et l'humilité d'essayer de transformer en art. C'est du déballage de tripes, mais cru, donc en sashimi.
Attends, t'es trop nuancé là, on comprend pas ce que tu veux dire.
Sans assaisonnement, donc bon appétit. C'est bien fait pour l'éditeur qui, sous prétexte que le gars a déjà vendu des wagonnets d'exemplaires, n'a pas eu le courage de lui dire « Non, Greg, désolé vieux, mais nous, au départ, notre cœur métier, c'est de publier des textes qu'on a ensuite transformés en livres. » Or là, ce que tu nous proposes, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, désolé, hein, mais ça va pas être possible. Là, j'imagine que l'auteur dit « Ah oui, mais vous êtes pas sympa, mon frère, il a mouru. » Oui, bah justement, supposément, les grandes douleurs
il
sont muettes.
Il refait les coulisses du roman, ouais, il refait Prequel, en fait.
Et le plus bel hommage que tu puisses rendre donc aux défunts, c'est de te murer dans le silence. Sérieux, Greg, frérot, c'est mieux pour tout le monde. Hélas, ça n'est pas ce qui s'est passé, et donc voilà le résultat, inepte, grotesque, à haut.
Patricia.
Eh ben écoute, non, j'ai envie de le défendre du coup. J'ai pas aimé, mais j'ai envie, de dire que c'était vachement bien.
Non, alors c'est je t'aiderai, Patricia.
Non, mais il y a un style qui est parfois insupportable. J'ai noté cette phrase. Dans mes veines ne coule plus seulement le sang de mes mots d'écrivain, mais aussi l'encre de ton histoire trouée. Bon, au secours. Et puis, alors, l'histoire, il l'a en partie racontée dans L'Enfant réparé, qui était un roman qui était pas mal du tout.
C'était pas un roman, c'était un essai.
C'était un essai, absolument. C'est très gênant de dire du mal de ce livre, parce que c'est une plongée dans l'horreur. Non, mais moi, j'ai une conscience, si tu veux, j'ai une morale, j'ai une droiture, bref, quoi. Tout ce que tu n'as pas, alors...
Ça te passera avant que ça me reprenne.
C'est vrai, bon. Non, parce qu'en plus, on apprend des choses absolument épouvantables. Il y a une lettre du frère à sa curatrice qui est absolument effroyable. Enfin,
c'est sans doute ce qui est le mieux écrit dans le livre.
Bah ouais, un peu, c'est vrai. Où il se plaint, il se plaint même pas, mais il dit j'ai 80 euros par semaine pour vivre, bah j'y arrive pas, je peux pas bouffer, si j'ai besoin de changer ma paire de chaussures, je ne peux pas. En plus, il y a une forme de, je dirais, un peu de complaisance, quelquefois. Il se roule un peu dans son chagrin. Et moi, j'ai vraiment pas trouvé, surtout, ma place de lectrice. Et j'ai l'impression d'être restée sur le quai, d'être restée hors de cette histoire. Et je l'ai entendu dire, et ça peut être un début d'explication, qu'en fait, certes, ils ne s'étaient pas vus pendant plus de 30 ans, ces deux-là, mais qu'ils avaient recommencé, ils avaient renoué, c'est-à-dire qu'il avait commencé à écrire quelques polaroïdes, comme excuse-moi de prononcer ce mot devant toi, Rebecca, je suis extrêmement émue de le faire, mais ils avaient commencé...
Rédaction, allusion à Totémique.
Ils avaient commencé... Oh bah elle est géniale, la séquence de polaroïdes. Mais d'ailleurs, tu devrais la faire au masque. Hein.
Avec Grégoire Delacour.
Non, là, exactement.
Là, on est au masque et la plume, Patricia Martin.
On est un petit peu... on est écarté de ça, parce qu'il a continué à l'écrire à lui, sans penser que ça allait aussi, puisque ça serait publié, lu par d'autres. Et en fait, je me demande si c'était destiné véritablement à être publié.
Ah, une question
pas.
Qu'on devrait se poser peut-être tellement plus souvent.
Bah, ouais. Ouais.
Bon, alors moi aussi, je pensais être celui qui avait moins aimé le livre, mais je me rends compte que non. Parce que soyons clairs, hein, c'est effectivement gênant de dire du mal d'un livre qui porte sur un deuil. Le fond est inattaquable, éminemment respectable et estimable. Que cela soit dit, verbalisé, etc. Évidemment, le problème...
L'avertissement est entendu.
C'est la forme. Alors, autant j'avais aimé, moi, l'essai que Grégoire Delacour avait fait sur l'inceste provoqué par son propre père, l'enfance abusée, etc.
L'enfant
parce que là,
réparé.
Pour le coup, l'enfant réparé. Mais voilà, sur l'enfance abusée. Mais là, peut-être ce livre, à mon sens, vient trop tôt après ce livre-là, parce que le deuil du frère, le frère est mort à l'été 2022. Le livre a donc probablement été écrit jusqu'en 2024, parce que certaines des 488 vignettes sont datées. Au moins, il parle des Jeux Olympiques.
C'est une chronologie,
donc c'est,
toi.
Voilà. Journaliste, on essaye de mettre les choses dans l'ordre.
Ah, ok.
Mais voilà, le problème, c'est que le dispositif, à mon avis, ne tient pas, les 188, non, parce que quand il parle du frère, effectivement, il y a très belle phrase. Hein. Les hommes font des livres à leurs frères morts comme on érige des mémoriaux aux inconnus dans les villages. La littérature est un vaste cimetière et j'y pioche ta place. Bon, là, ça tient debout. C'est pas inoubliable, mais ça tient. Mais le problème, c'est que dès qu'il s'écarte du cœur du sujet, qui est le deuil de son frère, le livre pose ses propres questions, à savoir qu'est-ce qu'un livre, à quoi ça sert, quelle distance ça met. Et bien justement, il n'y a plus de distance, et c'est là que ça pêche, parce qu'il y a quand même des phrases. En quoi l'écriture sauve de quoi la littérature parfois pue des pieds, elle prend l'eau, elle ne retient rien, elle est juste un soupçon. Bah ça non, désolé, ça non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de distance. Or, la littérature, l'espace de la littérature, le roman est avant tout un espace, et c'est cet espace qui fait fiction, non-fiction, création, art, littérature. Je pense qu'il a voulu sûrement bien faire, peut-être l'éditeur pu dire « Attendons, je pense que peut-être c'est trop tôt.
» Polaroid du frère de Grégoire Delacour est publié chez Albin Michel. On enchaîne avec Mona et son manoir, dixième et dernier volume des Chroniques de San Francisco, que l'Américain Armistead Maupin a commencé à écrire il y a 50 ans. Nul besoin d'avoir lu les épisodes précédents de cette série littéraire pour entrer dans celui-ci. Mona et son manoir se déroulent sur d'autres collines que celles de San Francisco, ici... Bienvenue dans les Cotswolds, au sud-est de l'Angleterre. Rhonda et Ernie, un couple de touristes américains, y débarquent pour passer quelques nuits dans le manoir de Lady Mona Rofton, dite Lady Mo. Alors, Rhonda et Ernie entrent là-dedans dans son manoir comme dans un décor de théâtre. Rhonda s'imagine pénétrer l'univers de la haute aristocratie anglaise, alors que Lady Mo, que les lecteurs de Maupin connaissent, est une américaine lesbienne, mariée à un lord anglais sur catalogue, pour permettre à Isselui de vivre son homosexualité en toute liberté, jusqu'à l'épidémie de sida, ce dixième volume se déroulant dans les années 90. Maupin désamorce l'opposition très contemporaine entre ultra-conservateurs et familles queer, avec humour, dans un livre feuilletonnant où apparaît le sexe de George Michael, mais oui, dans un décor de manoir digne d'Agatha Christie. Patricia.
Alors tout le monde est absolument dingue, on l'aura compris d'ailleurs au résumé que tu viens de faire, tout le monde est dingue quand même dans cette histoire, même la chienne. Elle se met à aboyer dès qu'il y a des gâteaux, je ne sais pas quoi, du pain qui sort du four.
Dès que le pain est cuit, la chienne est lesbienne elle aussi.
Et la chienne est lesbienne.
D'où un rapport au levain, non?
Non mais en fait c'est extravagant, c'est loufoque, mais moi j'ai envie de dîner avec Mona, j'ai envie de serrer Wilfried dans mes bras.
Son fils adoptif.
C'est des personnages super attachants, il y a une intrigue qui malgré tout tient la route. Moi j'aime bien l'esprit du livre, c'est-à-dire parce que Maupin c'est un humaniste quoi, et j'aime bien le regard qu'il nous fait porter sur l'autre, les mots qu'on peut quelquefois dire à son égard et qui peuvent tuer, les barrières qu'on lui impose, tout ça. C'est un livre extrêmement généreux, c'est une tragicomédie, parce qu'il y a quand même, par exemple, à un moment donné, il y a une femme qui se fait quand même tabasser. Ça pourrait être larmoyant, etc. Ça l'est pas du tout. En fait, l'obsession de la femme, c'est de mettre surtout la bonne crème verdâtre sur les nions qu'elle a, les jetons qu'elle a, pour qu'on ne voit pas qu'elle a été battue. Puis après, elle fait sa valise et elle se bat. Mais c'est vu par ce prisme-là, ce qui ne l'empêche pas de dire quand même des choses assez importantes. Donc, encore une fois, sur la société. Moi, je préfère mille fois, même si c'est peut-être pas du niveau d'autres livres de Maupin, mais moi, je préfère mille fois lire un roman comme ça, plein de fantaisie, plutôt qu'une lamentation égotique de plus, très franchement.
Laurent ?
Il n'y a pas d'autre prétention stylistique que de narrer avec fluidité et efficacité, et de ce point de vue, l'objectif est parfaitement atteint. On sent un vrai savoir-faire
dans les dialogues, notamment.
Dont les choses sont amenées et puis ensuite exploitées. Maupin, bon, tu le disais, c'est de la feel-good fiction, mais avec un prisme LGBT. C'est rigolo parce que depuis des années, ces livres ont été des refuges pour des publics qui ne se sentaient pas forcément bien accueillis dans d'autres
fictions, représentés,
dans d'autres fictions populaires. Et il y a une sorte d'effet vache-qui-rit parce que le texte vache-qui-rit. Refuge est mimétique à sa teneur, puisque le texte refuge traite exactement de ça, d'adresse, qu'il s'agisse d'une maison à San Francisco, on ne sait pas de quelle couleur elle était, ou du manoir anglais, et qui sont une sorte d'arche de Noé pour tous les répudiés ou discriminés de la Terre. Et ça m'a fait penser à une chanson d'Elton John, Your Song, qui en 1970 faisait passer à peu près le même message en contrebande d'une maison où Elton et celui qu'il aimait pourraient être eux-mêmes tels qu'ils étaient en paix. Et aussi, ça m'a fait penser à une chanson de Niclo, cette fois, popularisée par Elvis Costello. What's so funny about peace, love and understanding? Soit en français, c'est quoi votre problème avec la paix, l'amour et la tolérance? Mmh. Et ben, en ces temps où le politiquement correct et la bien-pensance sont considérés comme des insultes ou des anathèmes, et ben, c'est sacrément agréable pour un hétéro-beauf bourrin comme moi de passer un moment avec ces gens ouverts, joyeux et bienveillants. Et oui, what's so fucking funny about peace, love and understanding?
Je pose la question. Garçon, fais gaffe.
Il suffisait d'Armistead Maupin.
Il suffisait de lui parler d'amour.
Est-ce que tu as fondu,
toi? Apporté ton éponge.
Hubert.
Alors, moi, j'ai fondu un chouïa moins, quand même, que Laurent et Patricia. Bon, moi, j'avais aimé, évidemment, les chroniques. Faut pas oublier que les chroniques, les premières chroniques de San Francisco, publiées en France deuxième à partir du mi-temps des années 1990, portaient sur le San Francisco des années 70. De même, là, ici, on est dans les années 1990.
Oui, parce je l'ai que, précisé.
Et moi, à la limite, c'est presque ce qui m'a le plus plu, parce que, oui, c'est vrai que c'est sans prétention, ça, c'est, moi, je suis client, pour ce qui est de la dimension Once Upon a Time, il était une fois, je vous emmène, etc. Mais là, je trouve que la façon dont il mêle avec son manoir, il fait du cozy mystery de Agatha Christie, et ça, je trouve que ce prisme-là ne prend pas avec la modernité de ces sujets et avec la résonance aujourd'hui de ces sujets. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est justement parce qu'il est quand même beaucoup question de Margaret Thatcher. Ce livre se passe dans une époque qui a été assez peu mise en fiction littéraire, les années
aussi
John 93. Major. Voilà, les années John Major. Je ne sais pas si dans le public ou si parmi vous, les gens, si je vous dis John Major, ça n'a pas marqué grand monde. C'est celui qui a succédé à Margaret Thatcher. On est avant l'Angleterre de Tony Blair, on est avant l'Angleterre de la Cool Britannia, on est avant l'Angleterre des Spice Girls et David Beckham, on est avant l'Angleterre cool. Et de traiter de ces problèmes universels à l'époque, comme aujourd'hui, dans cette Angleterre qui n'était pas aussi médiatisée et aussi vue cool que maintenant, et c'est ça qui, moi, m'a le plus plu, encore plus que l'histoire et que le fait de transplanter dans ce manoir ces personnages de San Francisco et les questions LGBT qui m'ont intéressé, qui m'ont plu, mais qui ne m'ont pas emporté.
Raphaël ?
Pour moi, ce qui est intéressant dans l'époque, dans ce 1993, qui est une des pires périodes pour le sida, parce qu'on est encore à distance du moment où il sera question des trithérapies, où il y aura un peu d'espoir injecté, et la mélancolie de la part qui est consacrée à ces morts qui hantent les rues de San Francisco, et qui est sans doute une des raisons pour lesquelles les Américains viennent voir la famille en Angleterre, cette part-là, je pense qu'elle est ce qui m'a le plus touchée dans ce livre, qui est par ailleurs extrêmement sympathique, mais les chroniques de San Francisco ont été adaptées 2 ou 3 fois en série, ouais. Et il y a un petit côté sitcom très sympathique, des dialogues qui fonctionnent, mais qui sont quand même d'une subtilité limitée.
Qui sont faits pour être portés à l'écran.
Voilà,
aussi.
Et à chaque fois, tout le monde explose de rire tout le temps, y compris quand c'est modérément drôle. Donc cette part-là de sitcom, à la fois, elle est très sympathique et ça fonctionne, mais ce qui m'a touché beaucoup, c'est plutôt cette espèce d'arrière-fond mélancolique du pire des années sida, enfin, ce qui est une des années vraiment très très douloureuses du sida, et la manière dont il passe au-dessus, il ne s'appesantit pas là-dessus, Armistead Maupin, mais c'est là tout le temps.
Mona et son manoir d'Armistead Maupin, traduit par Marc Amfreville et publié chez L'Olivier. On termine avec Roman de plage d'Arnaud Catrine, dont le titre plage est au pluriel, puisque le narrateur est en vadrouille, des bords de la Méditerranée à ceux de la Manche, en passant par l'Atlantique. Ce voyage en 4 étapes de bord de mer est celui de Raphaël, un écrivain pas loin de la cinquantaine, fraîchement largué par la femme qu'il aime, avec qui il vécut 20 ans, avec qui il a une fille. Et après cette rupture, Raphaël sombre dans la dépression. Ce roman de plage est son journal. Donc le roman d'un homme, le journal d'un homme qui renoue avec l'écriture et qui reprend les rênes de sa vie. Si ses différents séjours en bord de mer le ramènent à son enfance ou à son passé amoureux, chaque étape est l'occasion d'autres paysages, de nouvelles rencontres et de lectures. Ce narrateur est donc un homme cassé, mais ce roman de plage est hédoniste, avec la plage comme remède. Hubert.
J'aime beaucoup l'œuvre d'Arnaud Catrine en général. Celui-ci n'est pas mon préféré, cependant. J'aime beaucoup son œuvre parce que depuis Exercice de deuil, Sweet Home ou La disparition de Richard Taylor, qui il y a 20 ans était ses premiers romans, il n'a de cesse de travailler sur la disparition, le deuil, mais travailler par des gens qui ont l'âge de l'auteur. Donc il les voit à hauteur d'auteur qu'il est, à hauteur de génération, à hauteur d'âge. Et on a presque évolué avec lui parce qu'il a traité des problèmes d'époque par le prisme de la disparition, du deuil et de l'arrivée de comment est-ce qu'on est un homme, comment est-ce qu'on est un père, la question entre vulnérabilité et virilité qui reste.
Mais là, c'est plutôt, il est plutôt question d'un deuil amoureux.
Voilà, question, oui, d'un deuil amoureux. Il a toujours travaillé autour de ces choses-là et ici, je trouve que ça a tendance un petit peu à se répéter par rapport à ses livres précédents. Certes, j'aime la façon dont il parcourt de ville en ville, de région en région, de station balnéaire en station balnéaire. J'aime le rapport avec sa fille. J'aime le fait qu'il soit le narrateur Raphaël, le seul mec est le seul héros d'un livre dans lequel tous les autres personnages...
Non, il y a un adolescent aussi.
Il y a un adolescent aussi, mais enfin...
Qui a aussi des peines de cœur.
Ouais. Qui a aussi des peines de cœur, mais la question de la vulnérabilité, de la virilité sont vues aussi par rapport à comment est-ce que des femmes veulent que soient les hommes dans ce livre. Ça, j'ai aimé, mais je trouve que justement, il passe un peu à côté de ça, et alors qu'il retraite un peu de la même manière qu'avant des choses qu'il a déjà traitées générationnellement et par rapport au deuil, me semble-t-il.
Ça garde beaucoup de charme, je trouve. Raphaël, ce livre.
Pour moi, beaucoup de charme, hein. Charme saganien en diable, et on n'ira pas dire que c'est une grande fresque sociale et politique, ça c'est sûr. Voilà, on boit du vin blanc en mangeant. Voilà, il cite Sagan, comme il cite beaucoup d'auteurs qu'on a envie d'aller voir aussi, puisque notamment Chantal Thomas, le journal de Nage, on a envie d'être accompagné par tous les textes qui sont avec ce Raphaël.
Et c'est des textes qu'il sauve.
C'est le roman d'un lecteur, et ce que je trouve très beau, c'est que par ailleurs, il y a une vraie modestie lui, dans le projet d'Arnaud Catrine. Il y a un côté je grave pas les choses dans le burin de la littérature, voilà, j'ai des admirations très fortes, et je sais où peut se situer ce texte, et les choses passent, et on écrit pour essayer de sauver quelque chose du temps, quelque chose des émotions, et on sait que ça va disparaître. Et donc la modestie du propos et le charme saganien, chez moi, ça marche, d'autant qu'en plus il est beau. Il est question du phoque, you. Une créature merveilleuse qui surgit au large d'Arcachon. Je vous laisse découvrir. Qui est vrai.
Bien joué, oui.
Patricia ?
Que d'eau, hein, disait MacMahon. Il y a beaucoup d'eau quand même.
Ben
il y a pas mal de vin aussi. Qu'est-ce qui s'enfile comme verre de vin ? Non, moi j'ai trouvé que le début, moi j'ai beaucoup aimé le début et j'aurais voulu que ça se poursuive comme ça ou que ça s'arrête parce que quand il est à la Grande Motte, la rencontre avec la propriétaire de son appartement, les liens qui vont se créer entre eux, ils vont à la plage, ils prennent des repas, ils parlent de littérature puisque leurs conversations sont très plaisantes et ce sont les livres qui les rapprochent. Donc ça, c'est tout un aspect du livre que j'ai bien aimé. les références à la littérature et aux auteurs sont formidables. Moi, il y en a une qui m'a énormément touchée, c'est celle à Yves Navarre. Parce que qui parle encore aujourd'hui d'Yves Navarre, qui a quand même eu le Goncourt avec Le Jardin d'acclimatation, qui était un merveilleux livre, et Navarre était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et il cite un extrait du journal de Navarre. « Ce soir, ça va mal, très calmement mal. » Donc je trouve que ça, c'est très bien, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus peut-être de nerfs, plus d'énergie, quand on se pose la question sur la nécessité de l'écriture à partir d'un chagrin. On a l'impression que tout ça est quand même bien... Ou alors il a...
Bah, amorti par les antidépresseurs et le vin blanc.
Et tu m'enlèves les mots de la bouche.
Laurent.
Ben, je vais rebondir, enfin, je ne sais pas si je vais rebondir, mais je vais en tout cas m'approprier certains des mots que vous avez employés. Parce
nous payes des droits d'auteur.
J'ai pas mieux. Charme. Oui, c'est un livre qui a un charme. C'est ce qu'on pourrait appeler, en mettant des guillemets, mais pour une fois, il ne serait pas péjoratif.
Qu'est-ce que tes guillemets aujourd'hui?
Un livre d'écrivain. On sent cette volonté qui est en fait une forme d'humilité de produire le meilleur texte possible, mais en s'inscrivant dans une tradition. L'auteur prend du plaisir à se couler dans l'archétype de l'écrivain qui va aller regarder la mer pour se souvenir de ses amours défuntes et pour idéalement en tirer un livre. Alors là, l'eau salée de la mer, l'eau salée des larmes, tout ça lui fait penser à des livres. En fait, on a l'impression que même avec cette histoire qui, hélas pour lui, a pris fin, il cherchait en fait les livres dans son histoire d'amour, et quand il y prend un livre, il y cherche un décortiquage du sentiment amoureux. Et ces allées et venues, là, débouche sur un autre motif classique, c'est le gars qui écrit pour dire qu'il réussit pas à écrire, et à l'arrivée, ça nous donne un livre. Un livre qui donc a, a du charme, c'est un livre d'un gars qui aime l'amour, qui aime les livres, et qui aime la balnéarité, et il n'est ni le seul, ni le premier, mais en bricolant ces trois fils de couleurs différentes, il nous fait un joli Scooby-Doo. Voilà. Homme triste, toujours tu chériras la mer.
Roman de plage d'Arnaud Catherine est publié chez Flammarion. C'est l'heure de vos coups de cœur, 5 recos qui s'ajoutent au programme du jour. Hubert, tu souhaites fêter les publications d'une toute nouvelle maison d'édition marseillaise.
Exactement, ce qui va se spécialiser, ça paraît cette semaine, c'est paru le 20 juin, dans la novella, hein, la nouvelle entre 30 et 40 pages. Ce sont des beaux objets en plus. J'en ai apporté un, celui de Fabrice Caro, Rumba Mariachi. Alors c'est du Fabrice Caro pur jus, hein. La première phrase c'est « Quand le téléphone a sonné, j'étais en train de me pendre ». Et alors le narrateur descend de son tabouret, il décroche et rendez-vous avec 40 pages de retour sur Terre à coups de petits détails qui, petit à petit, scène par scène, Pierre qui roule à Masmousse, vont tout faire dérailler tout en offrant une galerie perte cocasse de portraits. Voilà, le deuxième est signé Aurélie Champagne, Mona, ça s'appelle. C'est des livres, voilà, à 6 € ou 7,50 € pour ce qui est de celui de Fabrice Caro. Dans la novella, ça paraît là cette mi-juin. Voilà, c'est bien pour l'été. Je trouve que ça peut permettre de faire découvrir des autrices, des auteurs.
Si je puis, les deux sont vachement bien, oui. Et les livres sont de beaux objets.
Oui.
Raphaël.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui a 15 ans, et ça fait 15 ans que j'embête tout le monde avec Le Chagrin de Lionel Duroy, qui est un de mes livres préférés, somptueux et déchirant. Et il se trouve qu'il est réédité en poche, il n'était pas interrompu, mais toute occasion de chanter la gloire de ce très grand texte où Lionel Duroy, cet extraordinaire écrivain, se retourne sur l'histoire d'amour de ses parents et comment ils ont provoqué un désastre dans la vie de leurs 11 enfants, d'observer ces gens qui ont été aveugles à leurs erreurs de parents et au mouvement de l'histoire qui les accompagnait. C'est magnifique. Donc c'est l'histoire d'un aristocrate désargenté qui épouse une bourgeoise avec des fantasmes au-dessus des moyens du mari. Résultat, catastrophe, mensonge, lâcheté, et des enfants qui n'en finissent pas de payer le prix. C'est entre l'auto-analyse et la saga, c'est magnifique.
Le Chagrin de Lionel Duroy, réédité en poche chez J'ai lu. Pour ma part, je vous recommande Mes battements d'Albin de la Simone, qui est un chanteur que vous connaissez peut-être, mais qui est aussi dessinateur et auteur, et ses trois talents, il les réunit dans son premier livre autobiographique d'un peu plus de 150 pages. Alors Ses battements, ce sont des instantanés écrits et dessinés qui racontent d'abord l'enfance, qui dit être aussi géniale qu'embarrassante, l'enfance d'un môme grandi à Montigny-sur-l'Alu, 140 habitants, à 12 km au nord d'Amiens. Et ces battements, ce sont aussi ceux de la vie d'un musicien et d'un père qui part en tournée sur les routes de France. C'est vif, plein d'autodérision, parce qu'Albin de la Simone a l'élégance de ne pas surligner ses chagrins. Et le livre est publié dans un format proche du poche. Ça s'appelle « La noblesse de la modestie ». Mon tout est paru chez Actes Sud. Patricia.
de Michel Jean, Kimik, ça s'écrit Q-I-2-M-I-K, c'est publié au Seuil dans la collection Voix autochtone. Kimik, c'est un chien, une sorte de chien de traîneau du Grand Nord québécois.
Qui, pour depuis... l'été, c'est bien.
Ben oui, ça rafraîchit. Non, mais l'histoire n'est pas très drôle parce que ça a été un compagnon des Inuits pendant plus de 5000 ans. Les Inuits qui ont ensuite été sédentarisés de force par le gouvernement québécois et leurs compagnons de travail, donc ces chiens qui étaient capables de parcourir 100 km en une journée, ont été abattus. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il y a donc eu des campagnes de massacres et les gouvernements du Canada et du Québec ont reconnu leur responsabilité dans l'affaire. Mais ce roman, c'est ça, mais ce n'est pas que ça, parce qu'il est aussi très lumineux et très touchant à travers notamment l'histoire d'un jeune couple d'amoureux. Et pour ceux qui effectivement aiment la fraîcheur, les territoires sauvages, dangereux, cette lecture sera précieuse. Je vais te l'offrir, Laurent, je crois que ça va te faire le plus grand bien.
J'en veux pas, garde-le.
Comment ça t'en veux pas?
Non mais je plussois ce coup de cœur de Michel Jean et Kimik, qui est lui-même Inou. Hein,
et il est Inou, absolument.
Publié au Seuil. Laurent.
Je voudrais signaler la réédition chez Grasset dans la collection Les Cahiers Rouges d'un texte d'Oscar Wilde intitulé Le critique artiste. Alors ça peut sembler être un oxymore, mais il développe. Je me suis dit que les gens qui écoutent Le Masque et la Plume font la preuve que leur organisme supporte bien les postures critiques, voire, soyons fous, qu'ils aiment ça. Je ne juge pas, hein, du moment qu'à part les mouches, aucun animal n'est maltraité.
Très bien.
Tu sais que Marguerite Duras pouvait s'émouvoir de d'une mouche qu'on allait écraser.
Je pensais qu'il est préférable de ne pas développer le sujet.
Mais donc, dans ce court texte, qui est donc a des chances de les intéresser, puisque comme son titre l'indique, il envisage que le critique puisse être non pas juste une attraction foraine radiophonique, ou un arbitre des élégance autoproclamée, mais bien lui ou elle-même, le créateur d'une œuvre. C'est contre-intuitif, c'est paradoxal, c'est du pur Oscar Wilde.
Le critique rouge d'Oscar Wilde est réédité donc chez Grasset. Laurent Chalumeau, Patricia Martin, Hubert Artus, Raphaël Léris, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque exceptionnellement en studio. Pour le prochain enregistrement, nous reprenons le chemin du théâtre de l'Alliance française. Ce sera le jeudi 26 juin et nous débattrons de la actualité littéraire et du cinéma. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode du Masque avec Raphaël Rousseau et Sofiane Aktib aujourd'hui. Ilinka Negulesco coprogramme l'émission, préparée avec l'aide de Nina Malray. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Inter, évidemment.